chronique d'Occulte Racine sur Radio Grand Ciel avec Lynn. Suite, chapitre 8. Comme la nuit des amoureux basculait dans l'horreur, le petit vase de verre vint s'écraser dans l'oubli. Le bruit fracassant du souvenir qui vole en éclats. Et le cœur de Barbara, à cet instant, se brisa. Sur le sol carrelé du salon, les deux crevettes, desséchées, démantibulées, gisaient librement. Lorsque la main de Martin s'approcha du coffre-fleur, les mots lui échappèrent. « Attendez, je vais parler, ne faites rien !» Elle ne savait plus ce qu'elle pouvait encore sauver, mais c'était sa seule chance d'arrêter le massacre. Ses lèvres s'écartèrent, elle eut le temps de dire « c'est... » Puis elle s'arrêta net, les yeux rivés sur les volumes replets du coffre-fleur. Lèvres pendantes, expression ahurie et les bras le long du corps, Barbara ne savait plus ce qu'elle voulait dire. Puis elle vit son époux. « Raphaël, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Que se passe-t-il ici ?» Mais Raphaël s'était évanoui, son corps penché sur le côté, dans le vide, au bout de son nez, une goutte rouge qui ne voulait pas tomber. De part et d'autre, les deux nigauds cagoulés attendaient des ordres qui ne leur arrivaient plus. Martin était perplexe. Il essayait de comprendre. D'un côté, alors qu'elle était sur le point de parler, la jeune femme était passée instantanément de la peur panique à l'égarement le plus total, et son regard s'était vidé en une fraction de seconde. D'un autre côté, le vieil homme avait assisté à la mort du coffre-fleur en direct, presque au creux de sa main. Il avait surpris l'objet en train de changer, de perdre ses couleurs, de rabougrir et durcir à vue d'œil, pour finalement prendre l'allure d'une vulgaire sculpture de bois gris. Ça avait crépité juste à l'instant où elle avait ouvert la bouche pour parler. Le vieil homme avait senti une tension dans l'air. Il s'était passé quelque chose qui avait tué ce bouton de fleur et foudroyé l'esprit de cette femme, en même temps. « Mais vous êtes qui ? Qu'est-ce que vous voulez, bon Dieu ?» osa s'emporter Barbara. Martin était en train de perdre le contrôle de la situation. L'interrogatoire s'éternisait, elle parlait trop fort, il devait réagir. Le vieil homme se dirigea vers la cuisine, fit signe à l'un de ses deux cagoulés de le suivre et s'enferma dans la pièce avec lui. Il ressortit seul, un sac plastique à la main, se jeta sur le second nigaud cagoulé et lui planta une minuscule seringue dans la nuque. Barbara ne comprenait plus rien. Elle se recroquevilla dans le canapé. Tout allait trop vite pour elle. Dans sa main, elle serrait le bandeau tombé de la tête de son mari. Elle pensait étrangler le vieil homme avec, mais ce dernier fut plus rapide. Et quand elle lui injecta son poison dans le cou, elle eut à peine le temps de pousser la voix avant de s'effondrer. Quand Martin quitta l'appartement, une demi-heure plus tard, le coffre-fleur au fond du sac plastique, un silence de mort régnait au quatrième étage de l'immeuble parisien. La moquette absorbait le bruit de ses chaussures, son pantalon de toile ne produisait aucun son, l'homme respirait très doucement. Il aurait pu entendre une mouche voler à l'autre bout du couloir. Au lieu de cela, il entendit un pas bizarre, comme un pas rapide d'insecte, mais mal exécuté. Il ralentit, s'arrêta, puis leva la tête vers la petite araignée aux yeux verts qui le suivait depuis le plafond. Dans la serre, tout en haut de la tour, dans la grande pièce circulaire qui dominait le jardin, le crapaud ailé sur l'épaule du vieil homme eut un vilain soubresaut et s'écria tout d'un coup « Il nous a vus !»
Thank you.
Chapitre 9. Large nez. Elle m'envoie parfois des visions au plus fort des fêtes. Alors je ferme les yeux et je joue pour oublier. Extrait des recueils d'Occulte Racine. Qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici ! Mais le chat noir s'enfonça dans l'ombre des haies et disparut aussitôt à l'angle d'un passage tout à gauche. Hélène observa l'entrée du labyrinthe, hésita, puis tapa du pied dans la terre du sentier. Satané chat ! Pourquoi fallait-il que cet idiot choisisse d'aller justement là où elle ne voulait pas aller ? Les yeux noirs et une main sur le ventre, elle resta plantée devant la multitude des chemins végétaux, plus indécise et bougonne que jamais. Puis un rire de sage-fée résonna non loin qui la fit réagir. Elle n'allait pas abandonner maintenant. Après tout, ce labyrinthe ne devait pas être si compliqué. Ce n'était pas le genre de la serre. « Hélène !» La fillette sursauta, se retourna et tomba nez à nez avec sa sage-fée. Ce qui arrive ensuite, elle ne le contrôla pas. C'était la première fois que Pepper l'appelait Hélène. Elle lui avait donné du « gamine », du « petite », du « Miss Orban ». Elle était allée jusqu'à chantonner « Miss O, Fédéro, Miss Orban, à dégâts, ça sentait du bistrot, ça sent de la table ». Mais jamais elle ne l'avait appelée « Hélène ». Alors, dans l'air serein de cette nuit d'hiver, la claque partit toute seule. L'étonnante claque d'une enfant à une adulte. La main de la petite fille s'abattit avec la sécheresse d'un fouet et la mâchoire de la jeune femme accusa le coup en se déportant légèrement, mais elle n'eut aucune réaction par ailleurs. Visage impassible, bouche bée, les yeux dans le vague. Elle ne bougeait plus. Horrifiée par son geste et par l'immobilité de Pepper, la fillette n'eut d'autre échappatoire que le labyrinthe derrière elle. Aïe, 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 courir ne lui réussissait vraiment pas dans son état. Son ventre tanguait tellement qu'elle dut adopter une démarche chaloupée pour continuer. Dans l'urgence, elle s'orienta à l'instinct et par miracle ne se perdit pas. Au contraire, elle gagna une allée latérale sur la gauche, comme le chat avant elle. Puis continua toujours tout droit, encore tout droit, et se retrouva comme par magie à l'air des tabourets bolés et des hautes trompettes de la mort. Elle était arrivée de l'autre côté du tronc central. Le passage se referma derrière elle et aussi sec, elle fila par l'accès au sous-sol, le plus proche pour se retrouver dans la pénombre du couloir des chambres. Elle n'était pas descendue pour retrouver son Arakli et se cacher sous les draps. C'était le premier endroit où Pepper irait la chercher. Non, ce qui l'intéressait, c'était de se défouler sur le responsable de cette catastrophe, Damien. Il n'y avait que lui pour avoir vendu la mèche à propos du prénom. Elle l'entendait dans un coin de sa tête répéter bêtement la légende. « Si vous voulez qu'elle vous parle, il faut l'appeler Hélène. » Quelle bande d'imbéciles. Il fallait qu'elle tape sur quelqu'un. Et ce serait cet idiot qui allait prendre. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait lui faire, l'étrangler dans son sommeil peut-être, ou le rouer de coups jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais où était-il ? Elle faisait le tour des chambres, s'approchait de chaque protégé endormi, les observait de près, mais ne trouvait aucun garçonnet. À nouveau, il n'y avait que des adultes, partout. L'homme chauve, couvert de bosses, avait un crâne tout lisse, désormais. La vieille ronfleuse aux cheveux blancs ne toussait plus dans son sommeil. Elle avait un sourire de bébé qui respirait paisiblement par le ventre. Le dernier, elle ne l'avait jamais vu. Il venait d'arriver. Un homme jeune, d'une vingtaine d'années sans doute, très maigre, très marqué. Mais ce n'était pas Damien. Ce bougre avait quitté la serre. Il était resté le temps de bouleverser l'existence de la fillette et s'en était allé sans dire au revoir. C'était ce que faisaient tous les garçons. Arriver avec un air innocent, détruire la vie des gens et disparaître. Elle avait déjà connu ça. L'histoire avait eu lieu un an plus tôt, dans la maison d'enfants des sœurs Agnel. Le garçon d'alors s'appelait Théo, Théo Grandfil. On disait de lui qu'il avait une histoire compliquée, que c'était un garçon compliqué, mais qu'il avait aussi ses bons côtés. Quand Théo entendit parler du fantôme dans le placard, il fit tout pour le débusquer. C'était une question d'honneur. Mais l'épreuve n'avait rien d'héroïque. Il suffisait de frapper à la porte du placard, Elle ne disait pas bonjour, elle ne parlait pas, mais elle finissait toujours par ouvrir. Ce qui rattrapait tout le reste, chez Théo, c'était son sourire. Un sourire de star, un sourire ravageur, un sourire craquant auquel personne ne pouvait résister. Il obtenait tout avec ce sourire, et il le savait. Mais du fantôme dans le placard, il n'obtint pas un mot, même pas une esquisse de sourire. Pourtant, parfois, il se mettait à rire, tout seul, sans raison. Quand elle allait se chercher à manger dans la cuisine, il la suivait. Lorsqu'il croisait un animateur, il se mettait à rire. Elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait jamais rien de drôle, mais il le faisait à chaque fois. Il resta près d'une semaine, sans la quitter. Jusqu'au bout de la nuit, il demeura à ses côtés. De l'extérieur, tout le monde les disait inséparables, voire amoureux. Mais si le couple surprenait, elle était petite et moche. Même si le couple surprenait, elle était petite et moche et lui était plutôt beau. Il avait presque 12 ans, il allait quitter le circuit, il irait bientôt dans un foyer pour grands. On se demandait ce qu'il trouvait à cette gamine puante, enfermée dans cette minuscule chambre qui empestait elle aussi. Au fil des jours, la fillette finit par s'habituer à la présence de Théo, à ses attentions, à ses rires incongrus. Il ne la tapait pas, ne la brusquait pas, n'attendait rien d'elle. Son sale caractère avait la vie dure, mais elle devait bien l'avouer, il avait un sourire merveilleux, un sourire qui mettait en confiance. Seulement, à l'instant où il sentit qu'elle allait parler, il prit la parole en premier. « Tout le monde, ici, pense que nous sommes amis. Toi aussi, n'est-ce pas? Tu trouves que je suis beau et gentil. Ce que tu peux être bête. Demain, avant de partir, je dirai à tout le monde qu'il faut t'appeler Hélène. Je leur dirai que j'ai découvert ton petit secret, que c'est le seul prénom auquel tu réponds. C'est comme ça que j'ai pu devenir ton amie et te faire parler, en t'appelant Hélène. Je leur ferai mon plus beau sourire et ils me croiront tous. Mais à toi, je vais dire pourquoi j'ai choisi ce prénom. Parce que tu es moche, moche à pleurer. J'ai jamais vu une fille plus moche que toi. Ton nez est énorme. C'est vraiment immonde. On devrait t'appeler large-nez, s'attirer comme un gant. Tu comprends? L-N, comme large-nez. Hélène, Hélène. Chaque fois que quelqu'un t'appellera Hélène, tu sauras qu'il parle de ton gros pif dégueulasse. Et toi, tu diras rien, parce que tu es trop bête pour parler. Je suis restée une semaine avec toi et t'as pas craché un seul mot. T'as vraiment un pet au casque, ma pauvre. Mais demain, ça ira mieux. Ils t'appelleront tous Hélène. Tu ne leur répondras pas, mais ils continueront. Et ce ne seront pas les derniers, crois-moi. Un jour, tout le monde t'appellera Hélène. Ce sera ta punition. Les gens aussi laids que toi devraient tous être punis, parce que c'est une punition pour les yeux de te regarder. Il se leva, et avant de quitter le placard du fantôme qui sentait les larmes picoter ses paupières inférieures, il se retourna et lança un dernier. Tu devrais avoir honte, Hélène. Qui déchira le cœur de la fillette en deux. Depuis ce fameux soir d'automne, il lui semblait que son cœur ne s'était jamais remis. Elle pensait même en avoir perdu une petite partie cette nuit-là. Il fallait qu'elle quitte la serre. Hélène ne voyait plus d'autre issue désormais. Après tout ce qui s'était passé, après qu'elle ait découché et frappé sa sage-fée, c'était sûr, il n'allait plus pouvoir la garder. Ça n'était pas de gaieté de cœur, mais elle devait s'y résoudre. Et si elle ne partait pas d'elle-même, on allait la chasser. Et ce serait pire encore. L'ennui, c'est qu'elle ne savait toujours pas comment faire pour s'échapper. Elle avait espéré un instant que le chat la guiderait vers la sortie, mais en vain. Pourtant, elle était persuadée qu'il savait. Les chats savent toujours ces choses-là. Ce sont les rois de l'évasion. Il devait aller et venir à sa guise, pour sûr qu'il connaissait un chemin. Il fallait qu'elle le retrouve. Lui aussi avait dû quitter le labyrinthe à présent. De retour dans les jardins, la fillette s'écarta aussitôt du sentier pour s'aventurer parmi l'épaisse végétation, à l'abri des regards. Pas de sage-fée à l'horizon. Elle progressait tant bien que mal au milieu des buissons endormis, ses mains fatiguées, traînant dans les feuillages, là. Un peu plus loin, les menaçantes fleurs des géraniums catapultes dansaient sur leurs longues tiges le long de la paroi du dôme. Impossible de continuer dans cette direction. Des herbes jusqu'aux genoux, elle n'arrivait plus à voir ses pieds, mais elle sentait que quelque chose grouillait au niveau du sol, ça fourmillait. Par bonheur, à quelques mètres de là, le tapis végétal s'éclaircissait en une mousse verte et duveteuse sur laquelle la fillette termina sa course. Devant elle, un arbre majestueux déployait ses longues branches nues. Il n'avait plus une seule feuille, mais il était recouvert de baies rouges grosses comme des œufs. Et ses racines imposantes offraient un couchage accueillant. Ne tenant plus debout, elle se cala au pied de l'arbre. Elle se sentait tellement épuisée encore ce soir. Ses paupières étaient lourdes, ses jambes engourdies. Elle se recroquevilla contre le tronc dans un creux confortable. Cette journée avait été affreuse. Elle voulait l'oublier, tout oublier. Elle allait faire une petite pause. Elle reprendrait ses recherches plus tard. Ses yeux se fermèrent sur ce sentiment de tristesse et le sommeil l'emporta aussitôt, effaçant son chagrin de monstre solitaire. Au-dessus, sur les branches de l'arbre, les œufs rouges se mirent à grossir lentement. Quel est cet arbre au réveil vespéral qui, la nuit tombée, offre ses fruits aux lames des menthes jardinières? C'est le baobab, le géant de bois qui se couvre d'une épaisse carapace rouge en faisant gonfler ses baies. Les fruits deviennent si gros qu'ils finissent par cacher le tronc et les branches, en les englobant totalement. Avec du recul, ça ressemble alors à un gros arbre de Noël recouvert de boules en plastique rouge. Sauf que la surface est aussi dure qu'une pierre à aiguiser. Ça tombe bien, c'est pour ça que les menthes jardinières se réunissent chaque soir autour du baobab, pour aiguiser leurs lames. Elles arrivent en volant, se placent en cercle et commencent à jouer du tranchant sur la carapace de l'arbre. À cette heure-ci, les jardins sont vides, les sages-fées sont partis se coucher, tous les protégés sont profondément endormis et le barnapé vient de fermer. Personne n'entend le vacarme des lames sur la carapace. Et ça fait des schlings et ça fait des schlacks. Dans tous les sens, et les 12 à la fois. 12 insectes récolteurs de presque 2 mètres de haut, avec des faux longues comme le bras. 12 menthes aveugles et très occupées qui n'ont pas de temps à perdre en bavardage. D'un bout à l'autre de la serre, les menthes jardinières s'approchaient en volant. Toutes faux dehors et toutes prêtes à fendre l'air. Cependant, la fillette dormait toujours au pied de l'arbre, à l'ombre, des fruits qui grossissaient et grossissaient. Sous peu, ils allaient peser si lourd qu'ils finiraient par écraser la petite de tout leur poids. Si les menthes jardinières ne la mettaient pas d'abord en pièces. « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Allez debout ! Réveille-toi » La soaqua une main désespérée. Le hurlement qui suivit frappa les esprits. Un hurlement long, strident et déchirant. Ça donnait comme le son du drame le plus effroyable. C'était le cri d'une petite fille qui avait ouvert les yeux sur un spectacle surréaliste. D'un côté, elle voyait des masses rouges prêtes à l'écraser, et de l'autre, des menthes religieuses géantes qui venaient la découper en morceaux. Elle en comptait au moins 3. Le vacarme était partout. Elle était en plein cauchemar. Tout va bien, calme-toi, je te tiens. Hélène se sentit soulevée de terre. Il y eut un mouvement tranchant au-dessus de sa tête. L'adulte se pencha en arrière et la fillette se blottit dans le parfum merveilleux au creux des bras de son héros, qui était en fait une héroïne. Elle n'a rien ? La fillette reconnut la voix masculine d'Hermeline et s'attacha à découvrir qui venait de la sauver. Non, elle n'a rien, mais elle a du coffre, ma gamine, finalement, hurla Pepper. C'est la première fois qu'on t'entend, et direct, tu me défonces une oreille. Loin de l'activité frénétique des menthes jardinières et du concert des lames sur l'arbre rouge, elles étaient toutes les quatre en retrait, sur un petit îlot au milieu des herbes, saines et sauves. Hélène et les 3 sages-fées venus la secourir, Jinko, Hermeline et Pepper. « Tu as décidé de nous faire des frayeurs, toi, ce soir ?» fit cette dernière. À ces mots, la fillette lui sauta dans les bras et la serra très fort, aussi fort qu'elle put. Parce que si elle était capable de mettre des claques aux adultes, ça n'en demeurait pas moins une petite fille qui venait d'avoir la peur de sa vie. Finalement, il n'allait pas la mettre dehors. Le matin suivant, Pepper reçut la visite d'une grenouille volante alors qu'elles allaient sortir de la chambre. La voix féminine dans la bulle était encore plus énervée et virulente que la première fois. Mais Pepper garda le sourire. Soit elle n'était pas rancunière pour un sou, soit elle avait une mémoire de poisson rouge. Dans tous les cas, la journée qui suivit fut certainement la plus belle qu'Hélène passa dans la serre. Déjà parce qu'elle décida de croire sa sage-fée à propos des crêpes au sureau, des madeleines roses, des galettes au beurre, d'épinards ou du gâteau de sucre noir. Celles et ceux qui les rejoignirent alors à la table mille-pieds firent face à un monticule d'assiettes vides et de pichets sales derrière lequel il était impossible d'imaginer que la fillette continuait à se coiffrer. En début d'après-midi, vu qu'elle ne quittait plus sa sage-fée d'une semelle, elle eut aussi la chance de découvrir le jeu du chat et de la chauve-souris. Et ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Règles du jeu. Personne ne sait qui a inventé les règles du jeu. D'aucuns disent même qu'elles n'ont jamais été écrites. Que c'est l'arbre de cristal qui les édicte à chaque nouvelle partie. Que c'est lui qui dirige le jeu. L'arbre de cristal a toujours été là. Il est apparu avec la serre. Son port élégant et son branchage au tracé régulier en font l'une des plus belles pièces de ses jardins. Mais l'une des plus mystérieuses aussi. Est-ce un végétal? Une sculpture taillée dans du cristal? Est-ce vivant? Personne n'a de réponse à ces questions. Il n'y a que des théories. Dans son tronc, une niche. Dans cette niche, trois rangées de sept chrysalides vertes. Des chrysalides prévues pour des mains d'adultes, ou d'adolescents. On appelle ça des chrysaludes, car ce sont les manettes des joueurs. Chacun la sienne. Une chrysalude a deux extrémités, le soyeux et la gésine. Le soyeux, comme son nom l'entend, produit de la soie. La gésine, elle, donne vie à de jolis papillons translucides. De merveilleux papillons blancs. Quand tous les joueurs sont prêts, il faut au moins 5 participants. L'arbre commence. Il se couvre de fleurs blanches réparties à intervalles réguliers sur ses branches. Au premier tour, chaque joueur crée un papillon qui s'envole de sa chrysalude vers l'une des branches de cristal, se pose dans une fleur et attend. Quand tous les joueurs ont envoyé leur premier papillon blanc, c'est là que la partie commence réellement. Venant de nulle part, surgit une chauve-souris noire. Elle entre en scène de son vol effrayant, mais n'a pas les forces d'aller très loin et se pose sur une branche. Si un ou plusieurs papillons occupent l'une des fleurs de cette branche, la chauve-souris les mange. Les joueurs ont besoin des papillons, car pour gagner, il faut au moins la moitié des fleurs et donner des fruits. Et pour que les fruits apparaissent, il faut que les papillons passent d'une fleur à l'autre. C'est toujours la deuxième fleur visitée par un même papillon qui donne un fruit, jamais la première. Là où les choses se corsent encore un peu, c'est que l'une des chrysalides peut donner naissance à tout moment à un papillon noir, un papillon malade. Ce papillon se déplace librement d'un tour à l'autre, il contamine les fleurs qui elles-mêmes contaminent d'autres papillons. Si par malheur une chauve-souris mange un papillon noir, elle mute, prend une couleur blanche et devient frugivore, s'attaquant tour après tour aux fruits déjà créés. Pour couronner le tout, les fleurs noires contaminées donnent des fruits noirs qui pourrissent et tombent à terre. En somme, un seul papillon noir dans une partie peut faire des ravages. Pour éviter de perdre, les joueurs doivent en permanence déplacer leurs papillons blancs, éviter les chauves-souris et les fleurs contaminées. Ils utilisent le soyeux, créent un fil, et avec celui-ci attrapent les papillons qu'ils entraînent vers une autre fleur sur une autre branche. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les fleurs aient donné des fruits. C'est un jeu de hasard, d'agilité et de stratégie finalement. Loin d'un mélange entre chat-perché et un cache-cache comme on pourrait le croire. Mais où est le chat dans tout ça? Demanderez-vous. Eh bien, il n'y en a pas. Pas vraiment. Il s'agit en réalité d'un chat-huant, c'est-à-dire d'une chouette. un rapace mangeur de chauves-souris qui apparaît si tous les joueurs d'affilée décident de passer leur tour. C'est l'arbre de cristal qui libère le rapace. Il surgit d'entre les branches et se met à tourner au-dessus des têtes. Le vol de l'oiseau est incontrôlable. Mais avec de la chance, il débarrassera le jeu de plusieurs chauves-souris sans distinction de couleur. C'est un coup risqué, mais qui peut s'avérer payant quand il est joué au bon moment.